Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, zoom sur la paternité des années 2010, portrait des jeunes pères d'aujourd'hui, qu'ils soient en couple, solo, au travail, au foyer, hétéro ou homo. Qu'est-ce qui rassemble les papas de cette décennie? Sont-ils aussi maternants que les mères? Savent-ils vraiment tout faire? Laver, habiller, donner le repas, les porter, échanger les couches de leur progéniture? Le partage des tâches parentales est-il vraiment égal ou est-ce un trompe-l'œil? Existe-t-il des compétences paternelles spécifiques? Quelles valeurs transmettent les pères des années 2010? Bref, à quoi ressemble le bon père de famille idéal de notre époque? Nous attendons toutes vos questions, réactions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et bien sûr au Standard Inter. Clarisse et Josué vous attendent au 01 45 24 7000. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez notre Scheherazade de la vie numérique, Julia Foyce, Il était une fois dans le web.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Je pourrais savoir pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle.
Ma situation n'est pas simple, donc ma vie non plus. J'ai une profession très prenante. En plus de ça, je suis père et mère à plein temps, et ça c'est difficile. Je lis des bouquins d'éducation pour être sûr de bien les élever, et de cuisine pour apprendre à varier les repas. Pendant le week-end, je pars acheter des tutus roses, j'apprends aussi à coudre et j'amuse la galerie pendant le dîner. Je cours toujours après le temps. Le week-end dernier, elles étaient chez leurs grands-parents. Quand mes filles sont ailleurs, je ne suis plus l'homme qui a des taches de chocolat sur son pantalon et fait le clown. Je n'arrive pas encore à concilier le fait d'être père avec ma vie d'homme. Il est possible que j'ai peur de voir entrer quelqu'un dans ma vie comme dans celle de mes filles. Et que tout soit chamboulé d'un jour à l'autre.
Un extrait du film The Holiday de Nancy Meyers en 2006. Avec nous ce matin pour esquisser un portrait des jeunes pères des années 2010, quatre invités. Bonjour Jérémy Collado.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur du blog Daddy Pool, où vous racontez votre expérience de jeune père de famille propulsé dans la vraie vie d'adulte, avec plein de responsabilités et de poches sous les yeux. Vous avez notamment publié Le Bonheur en politique chez François Bourin. Bonjour Jules.
Bonjour.
Vous êtes normalien, dessinateur à succès, Silex and the City en BD, en série animée sur Arte, et vous avez publié Le Guide du Moutard, édité chez Glénat. Bonjour Béatrice Caméraire.
Bonjour.
Vous êtes diplômée en sciences de l'éducation, fondatrice du site d'éducation populaire consacré aux questions de parentalité et d'éducation, les Vendredis Intello, et vous publiez chez Belin avec Amandine Joé « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent », sous-titré « La parentalité en 9 questions qui divisent ». Et puis nous attendons notre grand témoin Sylvain Mimoun, sexologue, gynécologue, psychosomaticien, qui dirige le centre d'andrologie de l'hôpital Cochin. Et on l'attend, il est dans le taxi. Béatrice Caméraire, il ressemble à quoi le jeune père des années 2010? Je cite votre ouvrage. C'est celui qui essuie le vomi à la commissure des lèvres, qui lasse les lacets de ses bambins, aussitôt défait, celui qui accueille sur son torse plus ou moins velu son nouveau-né, celui qui aime bercer, embrasser, chatouiller son bébé, et qui connaît par cœur le réseau veineux du placenta tout chaud. Pas vraiment l'image du pater familias surpuissant, défendu par des polémistes comme Éric Zemmour.
Ah bah non, 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 parce que quand même depuis maintenant 40 ans, les nouveaux pères ont eu le temps de prendre un petit peu confiance en eux, de prendre leur marque et d'inventer voilà la parentalité à leur sauce. Donc voilà.
Mais qu'est-ce qui différencie le nouveau père, hein, le terme est apparu dans les années 70, avec les papas nouvelle génération des années 2010?
Sans doute l'expérience qu'ils ont acquise déjà, parce que dans les années 70 c'était assez nouveau, même si la paternité s'est beaucoup reconfigurée, mais c'était quand même assez nouveau de dire qu'un père allait pouvoir adopter des fonctions qu'on associait uniquement aux mères avant. Et puis là maintenant c'est plus assumé, c'est plus affirmé, et donc on peut commencer à leur donner la parole et avoir des retours sur ces 40 années de paternage.
Jérémy Collado, il ressemble à quoi le nouveau père des années 2010? C'est quoi son portrait robot?
C'est un mec un peu paumé, je pense.
Comme vous.
Oui, comme moi. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, j'ai l'impression que moi, j'aurais adoré être le père comme Lino Ventura autrefois, quoi, qui s'assoit et tout le monde se tait et voilà. Mais j'ai l'impression que
c'est
les pères d'aujourd'hui,
qui non,
c'est pas
gifles.
Le cas du tout. Moi, j'ai une fille de 2 ans et demi. J'assume d'être complètement manipulé par ma fille, d'être complètement soumis. Voilà, même si je rêverais d'être l'inverse. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les pères ont beaucoup de pression et justement ont pas du tout confiance en eux à cause, à mon avis, de beaucoup de stéréotypes qu'on leur renvoie à la figure, alors que la plupart du temps, naturellement, un rôle peut s'imposer. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce blog où je raconte que
quand
on sait pas remplir une fiche de sécu, c'est compliqué de d'être père.
Jules.
Alors moi je suis pas du tout d'accord là, c'est une version à la Tomate et Venoux, hein, de la paternité. Ceux qui ont la phobie administrative, ceux qui ont la phobie de parentalité. Non mais en fait, moi je trouve ça plutôt marrant. Et je pense que en gros, j'ai du mal à généraliser sur ce que serait un nouveau père aujourd'hui, mais c'est clair
vous,
que...
Vous, prenons votre exemple,
oui,
Jules.
Oui, mais déjà, il y a un truc, je pense, statistiquement qu'il faut savoir, c'est que la moitié des nouveaux pères en région parisienne deux pères sur trois en région parisienne et la moitié des pères en France sont des pères qui sont divorcés. Donc déjà, ça prend un rôle un peu global de père et mère en même temps et qu'il faut tout savoir faire, quoi. Donc c'est une occupation. Moi, et puis, il y a un autre processus qui avance. Et moi, quand j'ai fait le guide du moutard, c'était mon journal de grossesse. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui ont été enceintes d'une certaine façon. Et donc, cette espèce de façon d'assumer et de vivre le truc a un certain rôle un petit peu décalé et déjà comme une espèce de prophylactique et puis d'enseignement préalable à cette espèce d'aventure assez comique finalement.
Béatrice Caméraire, le père des années 2010, c'est un individu qui incarne l'espoir de construire une société plus égalitaire entre femmes et hommes. Un nouveau père qui se dégage, ou en tout cas qui essaie de se dégager de la figure du pater familias, détenteur d'une autorité basée sur la crainte et les punitions, un peu à la Lino Ventura.
Bah oui, parce que les pères d'aujourd'hui, ils ont un lourd héritage, c'est quand même un petit peu celui de la psychanalyse, parce qu'on a, comment dire, un peu caractérisé ce que c'était un père au début, les années 1920, quoi. Et il se trouve que, en particulier Freud, hein, mais il n'est pas tout seul, il a quand même étudié ça sur une population très réduite, très stéréotypé, qui ressemble pas du tout à la société d'aujourd'hui, où les gens divorçaient pas, où il y avait pas de procréation médicalement assistée, où il y avait pas tout ça. Et donc, du coup, le rôle du père, il a été théorisé de manière cristallisée. Donc, les nouveaux pères d'aujourd'hui, ils ont la possibilité, ils essaient de le faire, ils le font activement, de remettre en question tout ça et d'aller vers moins de...
Et ces pères contemporains, ces pères des années 2010, ils sont souvent critiqués par ceux qui prennent un rôle paternel traditionnel.
Ils sont critiqués.
Ouais, ils sont critiqués. On critique ce côté maternant qui s'éloigne de la figure traditionnelle du pater familias.
Et oui, parce que la masculinité, c'est une espèce de norme d'interdiction. Il faut surtout pas ressembler à une femme, c'est stigmatisant. Donc effectivement, tout ce qui va aller dans le sens de ce qui est attribué à la féminité, c'est censé être dévalorisant atteignant pour leur virilité. Et c'est ça la grande force des pères d'aujourd'hui, c'est de dire mais attendez, on place pas notre virilité là-dedans.
Jérémy Collado, vous comprenez que les pères des années 2010 suscitent l'agacement de ceux qui ont une vision plus conservatrice du rôle ou de la fonction paternelle ?
Et moi, ce que j'entends derrière ce discours, c'est que les rôles de père et mère sont totalement construits, sont des constructions sociales, bon, ça correspond à des idées, des courants de pensée, etc. Moi, j'ai tendance à pas vraiment être d'accord avec ça. Je pense qu'il y a aussi des formes de déterminisme biologique, d'une certaine manière, qui détermine aussi, en partie, les comportements qu'on va avoir avec nos enfants, et qui détermine d'ailleurs aussi le comportement que peuvent avoir les soignants, les médecins, nos parents vis-à-vis de nous-mêmes, etc. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, la vision qu'on a des pères, elle est très caricaturale, on les infantilise, alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient assumer un rôle un peu plus masculin, ou alors ce que vous appelez peut-être péjorativement viril, quoi, on va dire.
Béatrice Caméraire.
Oui, alors moi je vais différencier le côté infantilisation et puis le côté viril, parce que l'infantilisation, effectivement, elle est importante, mais elle est sur les mères, elle est sur les pères. Les soignants savent pas toujours comment faire avec les pères, donc autour de la naissance, ils peuvent être vus comme des gêneurs parce qu'il faut aller être dans l'intervention médicale. Après, sur la question plus de la biologie, quand on voit qu'il y a quand même les pygmées Aka qui donnent le sein à leurs enfants, parce que c'est une manière de les consoler. Ils n'ont pas de tétine, donc c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me dis quand même que ça remet en perspective la part biologique, sociale. En tout cas, ça fait réfléchir.
Bonjour, Julia Foïs.
Bonjour.
Petite réaction à notre début de conversation.
Beaucoup de choses. Juste une petite chose déjà quand même. Même si autour de nous, et notamment autour de cette table, il n'y a que des pères, pères qui s'impliquent et c'est super. Les statistiques à un niveau national disent une chose qui est très claire, c'est que oui, bien sûr, le temps que consacrent les hommes au foyer et à l'éducation des enfants a certes augmenté en 20-30 ans, mais de 20 minutes à peu près. Donc ça reste quand même les femmes qui s'occupent principalement de l'éducation des enfants. Les hommes y participent, oui, mais ça reste ça reste du jeu, il y a du bricolage, il y a du jardinage, il y a plein de trucs très cool. Je remets pas du tout en question ce que vous nous racontez ce matin, et je suis sûre que parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de pères qui sont très impliqués, mais enfin, si on reporte tout ça à l'échelle nationale, on est quand même loin de cette société un peu idéale où tout serait partagé à 50%.
Et on a prévu de revenir sur ce faux semblant du partage des tâches entre les pères et les mères. Jules, dans votre guide du moutard, paru il y a 10 ans, la première édition a paru il y a 10 ans, vous racontez l'aventure de votre grossesse, entre guillemets, votre grossesse, la vôtre et celle de votre femme, parce que c'est devenu une aventure collective, participative. Le père s'implique plus que jamais dès l'annonce de la grossesse.
Oui, déjà c'est une aventure sociale, c'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire. On sait très bien que voilà, quand quelqu'un est enceinte, bah, ça concerne la famille, ça concerne les voisins, et puis finalement tout le monde se croit autorisé à donner une remarque, un conseil, y compris dans les cafés ou les magasins. Donc à partir de là, bien sûr, on peut rentrer, et je pense que c'est une étape préalable qui oriente énormément les années à venir, ensuite, quand on a des enfants qui gambadent, dans une dimension exploratoire. Et au fond, si on voit ça comme une espèce de territoire vierge, et moi je pense que, vous parliez de biologie tout à l'heure, il y a une dimension d'animalité qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette histoire-là de parents, à la croisée de la nature et de la culture, de ce qui est totalement de l'ordre de l'instinct, et de ce qui est de l'ordre du social et de la sophistication et des influences diverses. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette croisée-là, et notamment quand dans un accouchement, je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, j'adore. Je pourrais presque, j'irais passer comme stagiaire de troisième en observation dans les salles d'accouchement, parce que il y a tout d'un coup, on est en prise, probablement avec la mort aussi, c'est la même chose, mais c'est moins. Évidemment, c'est plus funeste, avec une dimension animale où on voit, je dirais, ce qu'on a de communion avec toutes les autres espèces. Et donc, toutes les dimensions de reptation du bébé qui vient de naître, toutes ces espèces de réflexes antiques, le réflexe caudal, hein, la queue de nos ancêtres poissons, de nos cousins poissons, existe chez les petits bébés. Dès qu'on en met un dans une baignoire, on voit bien comment il s'agite. Ils appellent ça en anglais le grasping, quand on passe un objet comme ça devant un petit bébé, hop, ses mains se referment directement dessus, qui est ce truc du petit mammifère, du petit singe. Et ben quand on le sent vraiment, et là, on est de l'ordre du phéromone, de l'échange de fluide. Ce truc-là, eh ben, on retrouve l'animal qui est en soi, et il n'y a pas besoin d'aller faire du base jumping ou du saut à l'élastique pour trouver ça.
Béatrice Kammerer.
Oui, moi, ce que je trouve, je vais rebondir sur la question de l'instinct paternel, parce que je trouve ça génial, justement, de comment on est en train de commencer à se rendre compte qu'en fait, sans doute que pour la survie de l'espèce animale, il a fallu des pères, parce qu'en fait, chez les humains, il y a un truc super particulier par rapport aux chimpanzés, c'est qu'en fait, les femmes sont enceintes très régulièrement, très fréquemment. Et donc, elles se retrouvent enceintes alors qu'elles ont un bébé de 2 ans. Et on est en train de se dire biologiquement qu'on a dû avoir des pères et tout un entourage pour élever des enfants.
Jérémy Collado.
J'adore parce qu'à chaque fois qu'on parle de nos enfants ou de la paternité, on est tous des espèces d'anthropologues, de sociologues, complètement spécialistes de ce truc-là. Et juste pour ajouter une toute petite anecdote, je suis totalement d'accord avec ce que dit Jules. Le sentiment d'appartenir aux autres quand la femme est enceinte. Moi, j'aime pas trop cette expression, on est enceinte. J'ai dîné hier avec des amis qui m'ont raconté ça, qui disaient qu'il fallait que maintenant on dise nous sommes enceintes. Je trouve ça un peu grotesque,
pourquoi,
un peu ridicule. Non, je trouve ça un peu ridicule.
Il y a que Louis XIV qui dit ça,
je trouve ça un peu grotesque. Après qu'on vive à deux, bien sûr, évidemment, c'est une aventure à deux, c'est un choix, un désir à deux, etc. Mais dans le fait d'appartenir, moi, je me souviens d'une anecdote où j'étais à la gare et ma compagne était enceinte de 7 ou 8 mois. Et puis, il y a une dame qui vient nous alpaguer. Et puis qui commence tout de suite à toucher le ventre de ma compagne et qui lui dit « Alors c'est pour bientôt, ça va ?» Puis moi, qui étais complètement invisible à côté, et puis 2 minutes 30 après qu'elle lui ait fait la leçon en lui expliquant plein de trucs qu'il fallait qu'elle fasse, elle me dit « Et puis vous vous en occupez bien, hein, vous faites attention, et puis faut faire le ménage hein, pendant ce temps-là. » Tout cette espèce de discours absolument. Donc ouais, c'est assez effrayant comme on appartient aux autres une fois qu'on est... enceinte, comme vous dites.
01 45 24 7000 pour réagir et témoignages, que vous soyez parents ou grands-parents. Quel regard portez-vous sur les pères des années 2010? Grand bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Parfois, oui, j'ai peur comme toi que ça ne suffise pas.
Clara Luciani, comme toi.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h23, à quoi ressemblent les jeunes pères des années 2010 ? C'est notre question du jour, avec la spécialiste en sciences de l'éducation Béatrice Camérer, le blogueur Jérémy Collado et le dessinateur Jules. Un courriel envoyé par Hélène, le début de votre émission sur la nouvelle paternité me fait sourire. Je ne sais pas si d'indulgence ou de satisfaction. Est-ce moi qui ai eu beaucoup de chance ? Je suis né en 1979 et mon papa a bien essuyé mon vomi, j'ai dormi bébé sur son torse, il est venu me chercher à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette idée des nouveaux papas 2010 ? Suis-je issu d'une famille avant-gardiste ? Béatrice Camérer, sur le témoignage d'Hélène.
Alors oui, c'est vrai que la première vague des ce qu'on a pu appeler les nouveaux pères, ça s'est passé dans les années 60, hein, des pères qui ont souhaité s'associer au combat pour le droit des femmes et qui ont dit voilà, nous aussi on va prendre notre part et notamment on va investir la parentalité. Donc sans doute peut-être qu'elle a fait partie des familles avant-gardistes. Après des papas qui ont été tendres avec leurs enfants et présents, je pense que c'était bien avant ça et l'histoire nous le montre aussi.
Jules, moi je pense que le vrai nouveau père, je sais pas si vous connaissez ces histoires d'Henri IV. Henri IV était très célèbre pour être une espèce de papa gâteau et en gros il jouait à quatre pattes, il se faisait marcher sur la tête par ses enfants et il recevait les ambassadeurs du Saint-Siège avec ses enfants en couche-culotte accrochés à son dos, ce qui choquait évidemment ses contemporains. Donc moi c'est mon modèle, c'est un petit peu Henri IV, vous voyez.
Julia Fosse, vous vouliez réagir au propos avant le disque.
Oui, parce qu'on a entendu tout à l'heure en début d'émission qu'aujourd'hui les hommes étaient enceints, alors en fait non. C'est-à-dire que c'est les femmes qui restent enceintes avec tous les désagréments que ça peut comporter, avec les angoisses, avec les transformations du corps, avec les bouleversements, etc. Avec les difficultés qu'elles ont derrière à retrouver une place au travail, tout ça reste pour elles. Alors que les hommes soient aujourd'hui beaucoup plus proches d'elles, que les hommes vivent aussi, passent aussi par des moments de troubles, d'angoisse, de fantasmes, d'envie, que eux aussi soient parfois euphoriques et parfois complètement cafardeux à l'idée d'avoir un enfant, oui bien sûr. Mais c'est à eux d'inventer leur propre place. C'est Aldo Nauri qui parlait dans les années 90 de mère bis. En fait, c'est pas ça le problème. Il s'agit pas de devenir des mères bis. Le père de demain, il est pas une mère bis. Il est un père de 2017. Quoi.
Il pratique la grossesse d'agrément.
Voilà, c'est-à-dire qu'il prend tout ce qui est bon et pour le reste, c'est non.
Et on écoutera tout à l'heure le pédiatre Aldo Nauri. Bonjour Nicobi.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur. Vous êtes en Bretagne, là, à Rennes, c'est ça ?
Exactement, oui.
Alors, vous publiez chez Dargaud une BD pleine d'humour, ça s'appelle Une vie de papa. Vous êtes en couple, vous avez deux enfants et vous vous décrivez comme un papa ordinaire. Il ressemble à quoi, pour vous, le père nouvelle génération des années 2010 ? Vous en esquissez évidemment un portrait dans votre ouvrage à partir de votre propre vécu.
Alors, je me sens très peu habilité à parler en termes général, mais disons, pour ce qui me concerne, moi, ce qui fait le sel de la démarche, là, c'est, je pense que c'est le côté un peu enfantin du père, justement, c'est d'être vachement sur un rapport de jeu avec les enfants et de prendre les choses avec énormément de dérision.
Alors votre BD est divisée en trois temps, avant, pendant, après la naissance, et vous décrivez donc dans cet ouvrage le lent passage du père abstrait au père les mains dans le cambouis, entre interrogation métaphysique avant et questionnement très prosaïque pendant et après.
Ouais, parce que contrairement à la mère, on n'a rien qui grandit, enfin à part du gras, quoi, dans le corps pendant la grossesse, si bien que c'est... en tout cas, moi j'ai vachement souffert de ça, de la difficulté qu'il peut y avoir à se projeter sur ce que ça va être. Et c'est bien qu'il y a un moment où on va à la maternité, on est deux dans la voiture, et puis on en revient, on est trois, quoi. Et ça, c'est un chamboulement qui est quand même un petit peu brutal, beaucoup plus brutal, je pense, que pour la mère.
Nicobi, comment est née cette envie de raconter cette vie de papa, qui est à la fois banale et extraordinaire ?
L'envie, elle est venue, je pense, exactement de la même manière que pour Jules, c'est-à-dire que quand on vit une aventure comme ça, personnelle, qu'on pressent être assez riche, on est tenté en tant que dessinateur d'en faire un petit journal de bord. Et il se trouve que là, il y avait c'était un terreau tellement riche que il y avait matière à le développer pas mal.
Merci beaucoup Nicobi. Une vie de papa s'est publié chez Dargaud. Bonjour Max.
Bonjour.
Vous appelez d'Antibes.
Oui, tout à fait.
Alors vous avez eu votre premier enfant à 23 ans.
Voilà, exactement, ouais.
Et vous occupez beaucoup de vos enfants, ils ont quoi, 10 et 5 ans, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ma fille qui a pas tout à fait 10 ans et mon petit garçon qui a 5 ans.
Alors vous affirmez, dans la fiche que j'ai sous les yeux, que vous êtes un papa moderne. En quoi êtes-vous un papa moderne, Max?
Un papa moderne, ouais, comment dire ça, moderne dans le sens où oui, je suis extrêmement présent auprès de mes enfants, parce que d'une part mon métier me le permet, me laisse quand même je dirais plus de temps libre pour m'occuper d'eux, et moderne dans le sens où je pense pas avoir le même rapport que je peux avoir moi avec mes enfants que celui que mon père a pu avoir avec moi.
C'est-à-dire
peut-être plus de présence, bien qu'il ait il est toujours été présent, hein, mon père, hein, mais plus de présence à la maison, et puis plus d'implication dans la vie quotidienne de notre foyer, de notre couple.
Plus d'implication émotionnelle, donc. Plus d'implication émotionnelle également. Et
peut-être plus, ouais, peut-être, ou en tout cas une implication émotionnelle, oui, des émotions que j'exprime peut-être plus, quoi.
Et sur le partage des tâches, Max?
Ah, on fait, c'est 50-50, hein.
Vraiment
ouais.
Bon. Ouais. Et ça se traduit comment pour vous, par exemple? Quelles sont les tâches que vous privilégiez, vous?
J'en privilégie pas forcément, c'est plus, on fait un peu de tout, quoi. C'est assez comment dire ça, c'est assez assez naturel, oui. Finalement de se partager les tâches à la maison. Ça a été un apprentissage, en fait, voilà. C'est-à-dire que quand mes enfants sont nés, j'ai grandi avec eux, quoi, voilà.
Jules,
oui, j'ai une question à vous poser, parce que vous je sais pas si vous avez eu des sœurs à la maison.
Un petit frère.
Ah bon, bah voilà, parce que c'est-à-dire que, et apparemment, donc vous avez une fille. Parce qu'il y a une question qui peut se poser, moi que je me suis posée à un moment, c'est, parce qu'il y a plein de dimensions, comme je disais, exploratoires, c'est comment est-ce que vous appelez le sexe de votre fille? Parce que moi, j'ai été élevé avec des frères, et je n'avais même pas de mots pour nommer ça. Et en fait, bon, pour les garçons, il n'y a pas 50 choix, il y a Zizi ou Kékette, mais voilà. Et en revanche, pour les filles, figurez-vous qu'il y a un mot par famille. C'est-à-dire, il n'y a quasiment pas une seule famille, on a l'impression que c'est universel. Je suis sûr que si j'interviewais toutes les filles autour de cette table, elles auraient un mot pour nommer ça différent. Et du coup, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on va appeler ça? Et alors, comment est-ce que vous appelez ça?
C'est très intéressant, Jules.
C'est très drôle, parce que, le sexe de ma fille, je dis le kiki, et elle, à chaque fois, me reprend en me disant non, c'est la zézette. Voilà.
Voilà, mais il y en a des. Moi, j'ai fait une liste là dans le guide du moutard, j'en ai répertorié une trentaine, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a encore des nouveaux trucs. Ça va de la mouflette au cucuche, le zouzou, le mimi. Et alors, c'est délicat. Et ça, c'est un exemple, je trouve, emblématique, justement, de tout d'un coup. Je pense qu'il n'y a aucune génération qui s'est posé cette question jusqu'à récemment. Hein. Et ça, pour le coup, c'est un exemple typique.
Merci Max de nous avoir appelé. Bonjour Anan, vous appelez de Strasbourg.
Bonjour. Oui.
Alors, vous êtes mère de famille?
Oui, depuis 2015.
Et votre mari, comment il s'implique?
Eh ben, ça a été naturel dès le départ. Il est présent autant que moi. Le mercredi, ben, c'est papa qui pose le jour de congé pour s'occuper du boulot. D'ailleurs, il est avec lui aujourd'hui, je pense. Mmh. Et ça s'est fait naturellement, ben, dès le départ. J'ai eu une césarienne assez douloureuse. Du coup, ben, ça s'est fait vraiment naturellement. Moi, j'allaitais, lui changeait les couches. Et en fait, on n'y pense pas. Chacun s'occupe du loulou et ça se fait naturellement et très bien comme ça.
Béatrice Caméraire, reste avec nous, hein, Anan. Béatrice Caméraire, en 2011, l'Institut National d'Études Démographiques a publié une enquête très intéressante sur le partage des tâches entre père et mère. Alors, cette étude met en lumière une forte résistance à des modèles classiques inégalitaires. Hein. Il s'agit d'une égalité du partage des tâches en trompe-l'œil.
Oui, parce qu'en fait, il y a les tâches qu'on voit, hein, la partie émergée de l'iceberg, les tâches visibles, visibles, les tâches valorisantes, et puis qu'on peut comptabiliser, qu'on peut couper en deux. Et puis, il y a de plus en plus que ce que certaines mères dénoncent, c'est la charge mentale, la tâche organisationnelle. C'est celle qui se voit pas, qui est pas toujours très valorisée d'ailleurs, celle du parent par défaut, hein, ce qu'on a commencé à appeler le parent par défaut. Et c'est vrai que je pense vraiment que ça va être là-dessus que va se jouer et qui est en train de se jouer la question du partage des tâches entre père et mère. Voilà, ça va être de se poser la question, qui connaît la taille des chaussures des enfants, qui prévoit le rappel du vaccin, qui fait le gâteau pour la fête de l'école.
Alors si je vous comprends bien, on s'extasie devant un père qui porte son bébé en écharpe, quand il prend une journée de congé pour enfant malade ou qu'il se propose spontanément pour changer les couches, mais tout un pan invisible des tâches est tout de même dévolu aux femmes, encore et toujours.
Oui, en gros, oui. Oui.
Jérémy Collado.
Ben, j'ai peur d'être d'accord avec ça.
Alors, après...
Jérémy Collado.
Oui, mais justement, moi, le début du blog que j'ai commencé à écrire, c'était justement ça, c'était en voyant toute cette image de beaucoup de pères qui faisaient des purées bio, qui disaient « mais c'est formidable, j'ai acheté un baby cook, grâce à ce baby cook, ma vie a changé », qui achetaient une écharpe de portage.
Ouais, justement, ça change tout le baby cook.
Qui étaient beaucoup dans l'image, qui étaient tous des pères comme Jules, en fait, voilà. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que cette image, comme vous dites, Ali, elle renvoie une image très caricaturale et souvent derrière elle cache une absence peut-être parfois.
Anan, vous partagez ce que vient de dire Béatrice Caméraire sur tout ce pain invisible des tâches qui n'est pas forcément partagé par les pères des années 2010?
Alors j'avoue que j'ai de la chance parce que j'ai un homme qui organise les choses autant que moi. Donc, je comprends parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans ce cas-là, qui pensent à tout organiser, tout penser. Nous, ça se fait plutôt naturellement.
Pensez à mettre son numéro sur le site de France Inter. Ça pourrait servir.
Non,
effectivement,
il pourrait donner beaucoup de conseils assez utiles à ses autres papas.
Il y a beaucoup d'hommes, de plus en plus d'hommes qui changent les couches, donc ça c'est super, ça bouge. Par contre, il y en a encore pas mal qui disent « moi, le caca, je fais pas. Je change que la couche avec le pipi ». Après, il y a un truc qui est vrai, c'est que les mères aussi doivent apprendre à déléguer un peu, doivent aussi laisser faire et doivent se dire que ce ne sera pas forcément fait comme elles font, mais ça peut être aussi très bien.
Jérémy Collado, Jules, sur les couches caca.
Oui, en fait, il y a un truc en fait qui est assez intuitif finalement dans le changement de couche. C'est un peu exactement les mêmes techniques que pour dégrafer les soutiens-gorge. En fait, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série Happy Days qui passait à la télévision et il y avait Fonzie qui était un peu le dragueur de la bande et qui donnait des cours de comment dégrafer le soutien-gorge d'une fille avec une seule main en attachant le soutien-gorge au radiateur des toilettes du café, et il aurait pu faire exactement la même chose, mais avec les couches. On peut faire un coup de scratch, mais avec une main.
Jérémy Collado.
Et justement, peut-être pour rebondir sur ça, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de. Pour le coup, il n'y a pas de changement de couche inné. La mère, c'est pas plus changer les couches que le père, pour le coup. Et donc, c'est parfois aussi un peu une fausse excuse de dire non, mais moi, je ne sais pas faire. C'est juste, la mère, elle ne sait pas plus faire, quoi.
Béatrice Caméraire vous regarde avec de grands yeux.
Oui, mais parce que je veux dire, il y a autant de mères qui n'aiment pas forcément l'odeur, qui sont aussi incommodées. Donc oui, effectivement, ça fait partie de l'apprentissage.
C'est la ubérisation de la paternité, vous voyez.
Anan, votre mari, les couches caca ou pipi
Dès le départ, ça a été lui et moi. Je crois que la première fois que j'ai changé une couche de mon loulou, il devait avoir 3 semaines. Autrement...
Merci beaucoup Anan de nous avoir appelé de Strasbourg. Alors Jérémy Collado, vous devenez père à l'âge de 25 ans en 2015, au moment des attentats de novembre. Alors à l'époque, vous l'avez un peu évoqué, vous ne ressemblez pas à ces pères qui changent les couches en écoutant du Mozart, ces pères qui postent des photos, qui les montrent en train de biberonner un lait directement prélevé du sein maternel, ou qui préparent, comme vous le disiez, de bonnes purées pommes de terre, petits marrons, bio et maison. Et vous vous sentez un peu complexé par l'image de ces pères modèles renvoyés par les médias et les réseaux sociaux.
Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que comme le père n'a pas l'expérience de la grossesse, il se pose dans des questions métaphysiques absolument incroyables, alors que une fois que le bébé est là, on n'a plus le temps de se poser ce genre de questions. Donc en me documentant un peu comme n'importe quel père, futur père inquiet et névrosé. J'ai regardé ces trucs-là. Faut absolument pas faire. C'est un peu comme les hypochondriaques. Faut jamais regarder Doctissimo. C'est exactement la même chose. Si vous avez, si vous allez avoir des enfants, ne regardez pas sur Internet et parlez au moins de gens possible.
Bonjour Sylvain Mimoun. Vous venez d'arriver. Vous êtes gynécologue, psychosomaticien. Vous en recevez beaucoup dans votre cabinet des pères de famille angoissés, anxieux par leur nouveau rôle.
En fait, comme j'ai commis, comme on dit, il y a quelques années, un livre qui s'appelle L'univers masculin, où il y avait tout un chapitre sur le père, donc un certain nombre de pères se sont autorisés à me poser des questions ou à porter leur questionnement par rapport à tout cela. Et c'est vrai que ça, de toute façon, ça m'intéresse, parce qu'en tant qu'homme gynécologue, je me suis beaucoup occupé des femmes enceintes et non enceintes, et elles me racontaient leur maternité. Et en fait, avant de le pousser dans le ventre, il pousse d'abord dans la tête, chez la femme.
Quelles sont les grandes angoisses qui reviennent chez les nouveaux pères de famille ?
La question similaire à celle des femmes, c'est d'abord, est-ce que je serai à la hauteur ? Et comme un homme se pose toujours la question, est-ce que je serai à la hauteur, quel que soit le domaine, donc du coup, là, ça fait un domaine où, officiellement, c'est pas sa partie, donc il se sent tout à fait désarçonné par rapport à ça. Et pour peu qu'il soit avec une femme qui le mette en doute par rapport à « tu ne sais pas ce qu'il faut faire », etc., là, ça ne fait que majorer les choses. L'idéal, ça serait que les deux se mettent coude à coude.
Jérémy Collado, Jules, vous aviez l'impression de ne pas être à la hauteur au moment de l'arrivée de ce nouvel enfant, Jules ?
Non, pas du tout, parce que encore une fois, voilà, j'avais l'impression d'être un peu Livingstone en train d'explorer un continent inconnu, et du coup, chaque découverte finalement, c'était une nouveauté, c'était marrant, mais c'était marrant pour tout le monde, aussi bien que c'est pas une question de mère ou de père. Et ce truc, en fait, qui est évidemment, il y a un nombre incalculable de tâches, de choses à accomplir, de choses dont il faut s'occuper, de responsabilités, et on a l'impression que ça crée énormément de problèmes, juste l'apparition des enfants. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert, et ce qui était quand même étonnant, c'est qu'au fond, beaucoup plus que source de problèmes, eh ben, les enfants, c'était une source de solutions. Et en fait, ça, on l'évoque pas tellement,
mais ce sont des solutions.
Oui, mais ce sont des solutions de l'ordre métaphysique et même de l'ordre très concret, c'est-à-dire de savoir comment organiser sa vie et les choses qu'on va faire. Et eh ben, à partir du moment où c'est dicté par cette nouvelle norme-là, eh ben, c'est très très reposant en fin de compte.
Jérémy Collado,
je vous le conseille.
Mais vous disiez la peur de pas être à la hauteur. Moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, s'il y avait un message que j'aimerais faire passer, ce serait de déculpabiliser un peu les pères en disant on fait tous un peu ce qu'on peut, quoi. On fait tous un peu ce qu'on peut. On sera jamais absolument parfait et toutes les normes, qui reposent sur nous sont parfois absurdes. Et deuxièmement, il y a quand même beaucoup de choses qui se règlent par le dialogue avec sa compagne, son couple, qui dégonfle aussi la pression.
Béatrice Camerer.
Oui, sur la question que les pères se mettent, moi j'ai quand même envie de rappeler deux petits faits. Là, en février, je crois, 2017, il y a une étude de l'INSEE qui a quand même dit qu'en France, un Français sur deux considérait que les pères étaient naturellement moins capables de s'occuper des jeunes enfants. Donc, je veux dire, s'ils ressentent autant de pression, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui leur renvoient cette incompétence et infondée, mais qui leur renvoient quand même. Donc, c'est un vrai combat pour eux que d'aller à l'encontre de ces préjugés.
Là où les femmes remercient leur conjoint d'être là en tant que père, justement, c'est quand elles vont craquer et que l'autre en face lui dit « donne-le-moi, l'enfant ». Et une fois qu'il le prend dans les bras, ça calme le jeu. Parce que tout d'un coup, elle était arrivée à un moment donné au bout d'un certain parcours. Et en effet, quand elle dit je vais le foutre par la fenêtre, ce n'est qu'un mot, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il soit dans les bras du père.
Jules,
ce que je veux dire.
Oui, ça dépend en fait à chaque fois évidemment de la configuration interne du couple. Mais encore une fois, il y a entre un sur deux et deux sur trois des pères qui s'en occupent aussi tout seuls. Quel que soit le partage ensuite, que c'est des gens qui ont des week-ends, ou une semaine sur deux, ou je sais pas quoi. Donc c'est quand même un fait sociologique majeur. Donc on a beau fournir ces chiffres de qui change les couches ou quoi, mais quand on est tout seul à changer les couches, c'est pas des algorithmes qui font le boulot. Donc,
Allez, à suivre le reportage d'Antoine Ni, qui a suivi un vrai papa poule. Pour témoigner, réagir, 01 45 24 7000. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby.
can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying.
Presley sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46, à quoi ressemblent les jeunes pères des années 2010? C'est notre thème du jour avec la spécialiste en sciences de l'éducation Béatrice Kammerer, le blogueur Jérémy Collado, le dessinateur Jules et avec le docteur Sylvain Mimoun. Alors je vous propose d'écouter le reportage d'Antoine Lee qui a rencontré Sébastien Michel, un vrai papa poule. Dans ce couple, c'est la femme qui détient le plus haut revenu. Elle occupe de hautes fonctions, dans son travail. Michel est fonctionnaire. Ils ont décidé d'un commun accord que c'était lui qui s'occuperait de leurs deux petites filles. Tous les matins, c'est le même rituel pour ce papa poule.
Là, il est 7h05. Donc voilà, là, je prends mon petit-déj avant d'aller réveiller les filles. Quand elles sont levées, j'ai plus de temps pour moi, en fait. Vous partez à quelle heure, vous ?
7h30, 7h45.
Et vous les voyez alors tous les matins ou des fois vous les voyez pas, vos filles ?
Deux fois je les vois pas, mais je les croise juste voilà, en partant, juste le temps de faire un bisou.
C'est pas difficile de laisser vos filles à Sébastien et vous devez courir après le temps pour aller au travail ?
Par rapport à mon travail, effectivement je dois partir plus tôt. Et après, Sébastien, c'est un papa exemplaire, j'ai fait confiance. Et après, d'un point de vue, en tant que rôle de maman, je dirais que je m'attrape plutôt le week-end pour passer le temps avec ma fille. Donc je trouve que c'est bien, c'est un bon équilibre.
Mais à la naissance de votre deuxième fille, vous êtes resté à 80% ou vous avez arrêté de travailler?
Alors j'ai carrément pris un congé parental d'un an, en fait. J'ai repris à 80% quand elle avait 15 mois.
On va tenter de réveiller la grande tranquillement. Coucou.
Tu viens avec moi.
Elle a quel âge?
Elle va avoir 6 ans. J'ai attaqué le réveil de la petite.
Ça va, chouchoute? T'as fait un gros dodo?
Alors, c'est Anna. C'est ma deuxième qui va avoir 3 ans.
Bougie? Lâche-moi mes bougies. Jette pas. Seigneur. Au revoir.
Vous avez dit quoi à votre fille?
Bah, je lui dis que ça y est, maman va au travail. Et voilà, bonne journée, bisous. Et à ce soir.
Le matin, c'est rapide, hein?
Ah oui, je speed.
Bonne journée.
Merci, au revoir, bonne journée à vous aussi.
Papa, mon chocolat.
C'est toi qui prépare, voilà.
Cette vie de papa poule, vous voyez ça comme un sacrifice ou pas?
Oui, c'est un sacrifice, clairement. Ça fait 6 ans que je m'oublie personnellement, parce que quand on fait des rapprochés, au niveau carrière aussi, tout ça, on va dire que c'est leur bien-être avant tout, voilà. Donc si leur bien-être n'est pas assuré, il y aura rien pour moi, en fait. Ça sera toujours elle d'abord.
Qu'est-ce que tu manges là, alors?
Des tartines.
Qui c'est qui s'occupe plus de toi? C'est papa ou maman?
C'est papa. Parce que maman, elle va son travail, il est très loin, donc elle se réveille plus tôt. Donc c'est papa qui s'occupe plus de moi.
Et t'aimes bien, toi?
Oui.
On obtient, à passer du temps, on obtient des résultats. On a des enfants qui sont éveillés, qui passent quasiment pas de temps, voire pas du tout devant les écrans. Enfin, ce genre de choses, qui jouent très bien tout seul, etc. Donc on le récupère après cet investissement à maman, quoi, voilà. Tu t'es débarbouillé ou pas?
Oui.
Oui, regarde-moi. Non, t'as l'œil tout caca.
Qu'est-ce que vous faites d'autre pour votre foyer, pour vos enfants?
Je fais la cuisine. Je cuisine énormément, donc c'est logique, c'est moi qui fais les courses, puisque je sais ce que j'achète pour leur faire manger. Voilà. Mais du coup, on arrive à des choses que leur plat préféré, c'est les ratatouilles et les épinards. Donc comme quoi, on arrive à quelque chose d'assez sain quand on y passe du temps. Quoi, voilà. Anna, faut qu'on y aille, ma chérie.
T'es prête pour aller à l'école?
Oui.
On se dit que la vie d'homme au foyer, c'est une sinécure, c'est cool, mais pas du tout en fait.
C'est un des boulots les plus difficiles sans reconnaissance par la société. Je m'étais battu pour mettre que j'avais été père au foyer pendant un an sur mon CV, mes copains qui étaient dans les RH, pour eux c'était une aberration quoi. Voilà, que c'est pas quelque chose qui est valorisant, que c'est plutôt une perception négative par les RH, etc. Alors que moi je trouve que ça devrait être quelque chose de positif, c'est enrichissant quoi.
Là on arrive à ton école alors là.
Oui.
Bah, bonne journée. Au revoir.
Reportage signé Antoine Nye, et je vous signale que Sébastien Michel tient un blog dédié aux pères de foyer, ça s'appelle desperatehouseman.info. Petite réaction autour de la table.
Oui, il y a quand même du temps pour faire un blog, là, de quoi il se plaint.
Sylvain Mimoun.
Je l'envie pas du tout. Réellement, même, pourtant, je me considérais comme un bon père, entre guillemets, mais dans les faits, c'est vrai que là, c'est plein temps, et ce que je vois, moi, je suis mal orienté, si je puis dire, mais ce que je rencontre en consultation, c'est les difficultés conjugales qu'il y a à partir de ces situations-là.
Béatrice Camerer.
Parce que ça tue, c'est le désir, etc.
Moi, je trouve que c'est, comment dire, un peu emblématique de la Révolution en marche, puisque ça montre à la fois comment cet homme et cette femme ont réussi à négocier dans leur couple quelque chose, un équilibre qui leur satisfaisait. Et puis surtout, on a bien entendu la petite fille qui montre qu'elle était son papa, et donc c'est un nouveau modèle qui est promu pour les enfants et qui va pouvoir peut-être perdurer.
Alors, en contrepoint de ce reportage d'Antoine Nye, je vous propose d'écouter le pédiatre Aldo Nauri dans l'émission À Voix Nue sur France Culture en 1994.
On a vu sortir du chapeau de la presse et encouragé par toutes sortes de médias les histoires des papas poules, n'est-ce pas? Ouais. Alors les papas poules se sont dit au fond, qu'est-ce qui se passe? Les enfants aiment leur mère parce que leur mère en sont très présents. Il ne nous reste plus qu'à être présents. Alors on va être présents.
Et on ils va sont pousser mis, la poussette.
Voilà, on va pousser la poussette, on va le changer, s'occuper du bébé, etc., etc., etc. Constat, ils se sont fait avoir. D'abord parce qu'ils ont déserté leur position de père. Ensuite de ça, ils se sont mis en concurrence avec la mère en voulant la mettre à la porte, n'est-ce pas? Et en voulant prendre sa place. Et puis, en dernier lieu, ils se sont rendus compte qu'en définitive, même si, éventuellement, il la mettait à l'écart, elle avait quand même plus de puissance que, à cause, précisément, de ces 9 mois d'avance qu'elle a pendant la gestation et à cause de la trace qu'elle laisse sur son enfant et que eux ne peuvent pas laisser. D'accord? Donc, on en est revenu. C'est une expérience qui a fait long feu et puis c'est définitif. Mais ça, il n'en reste pas moins que c'est toujours à la discrétion de la mère que les choses restent.
Le pédiatre Aldo Nauri, Jules.
Oui, alors c'était en 94, c'est-à-dire que les enfants dont il parle, là, ils ont à peu près 20 ans maintenant. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, ils votent tous massivement Marine Le Pen et ils partent faire le djihad en Syrie. Donc, merci Aldo Nauri.
Béatrice Camerer.
Oui, oui, c'est vraiment la caricature du propos, voilà, et qui oublie complètement que la paternité, elle est pas née comme ça. La nouvelle paternité est pas née comme ça dans les années 70. Hein, ça fait 2000 ans au moins qu'elle se reconfigure et qu'on a des nouveaux pères et que à chaque fois ils prennent
Sylvain Mimoun
forme.
Oui, c'est vrai que tous les 2-3 ans, il y a des nouveaux pères.
Nicolas Do.
Non, mais pour conclure ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'était ça, c'est le bon père et pas forcément une mère bis, quoi. Mmh. Et,
c'est non, ce c'est que pas je une mère bis, c'est sûr.
Voilà, c'est ce que je retiens du reportage aussi de tout à l'heure.
Dernière petite question, Sylvain Mimoun. Dans votre cabinet, j'imagine que vous recevez des jeunes pères de famille qui oublient parfois d'être également des amants et des amoureux.
Exactement, c'est même ce que je vois le plus souvent. Et alors, en tout cas, ils se servent, lui ou elle, se sert de cette réalité de lui s'occupant de l'enfant comme faisant disparaître son désir à lui. Ou en tout cas, mais cela dit, ça existe chez la femme, quand elle s'occupe des enfants parfois aussi. Et c'est très difficile, en fait, de lutter entre l'amant et la mère, ou entre le père et l'amant.
Béatrice Caméraire, très vite.
Oui, c'est aussi que c'est un travail épuisant d'être parent. Et que souvent, il y a ce pan-là qui peut être... totalement et à prendre en compte. Et jusqu'à présent, on connaissait que l'épuisement maternel. Maintenant, on connaît aussi l'épuisement paternel.
Voilà. Mais il faut se focaliser sur ce que l'on veut avoir. Et si jamais on met le désir d'abord, peut-être que des choses se passeront autrement.
Et pardon à Martin que nous n'avons pas pu prendre au téléphone. Merci Jules. Le guide du moutard, c'est publié chez Glénat. Merci Béatrice Caméraire. Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent, c'est publié chez Belin. Merci Jérémy Collado. On peut retrouver votre blog Daddy Pool. Merci Docteur Sylvain Mimoun. Le dernier ouvrage. Il s'appelle comment ?
L'univers masculin, c'est pas un dernier ouvrage, c'est un ancien ouvrage
qui reparaît
chez Au Seuil.
Allez, tout de suite, la chronique de Jules Lafoyce. Il était une fois dans le web.
Once upon a time.
Il faut garder le contrôle à tout prix.
Il était une fois dans le web.
Rebonjour du Yafoyce. Alors les pères nouvelle génération comme Jérémy Collado s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les blogs, jamais avares de détails quand il s'agit de raconter l'accouchement de leur compagne, et c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin, Julia.
C'est l'histoire d'un brumisateur pressé sur un visage en sueur, et elle pousse et elle crie, il appuie, c'est plus de l'eau, c'est de la pluie. Il arrose tout ce qui passe et tente de faire face, et elle pousse et elle crie, mais dans sa tête à lui, il cherche une sortie de secours, l'incendie intérieur qui l'enflamme. Et là-bas, la sage-femme qui ne le regarde même pas, il se demande ce qu'il fait là. Il se sait transparent, il craint d'être gênant. Et elle pousse et elle crie, il appuie. Au moins, le brumisateur lui donne une contenance et quelque chose à faire contre son impuissance. C'est pas moi qui le dis, c'est même lui qui l'écrit en février dernier quand il a accouché. Ah non, ça c'était elle, lui il l'a raconté. Sur Twitter, partagé la nuit qu'il a passée, la valise bourrée à craquer qu'il a pourtant fallu porter, l'hôpital où il faut foncer et conduire abri drapatu, jouer les cow-boys dans la rue et la attendre et la compter, les minutes, que dis-je, les heures, et foncer au distributeur pour plier des litres de café et toutes ces barres chocolatées. On saura tout dans le détail, tout de la phase de pré-travail. C'est alors que les choses s'accélèrent et en 140 caractères, notre prolixe futur père raconte la suite. Rien ne se perd. Le moment de la péridurale, il voit l'aiguille, ça lui fait mal. Le tabouret où il est assis, au moins sa femme, elle a un lit. Sa femme qui ressemble à Gandhi, tellement elle est zen, pas comme lui. Elle a tout appris, tout compris. Il faut dire, elle s'était préparée, elle savait ce qui l'attendait, tandis que lui, il a zappé. Alors il se sent tout petit face à elle qui, à peine, gémit. C'est sûr, pour elle, c'est le paradis. Il la regarde et il l'envie, il la voit des pieds à la tête et la compare à une... courgette, me demandez pas, j'ai pas compris. C'est peut-être parce qu'elle n'a rien dit chaque fois que la sage-femme a mis un doigt dans sa femme devant lui. Me regardez pas comme ça, Ali, je me contente de raconter le récit que cet homme a fait de ce qui ressemble à s'y tromper à l'exorciste version tweetée. Il y a du gore, c'est Predator. Ou c'est Star Wars, ou c'est Alien. Notre homme n'est jamais à la peine devant une métaphore filée, un blockbuster, un film d'horreur. Voici ce qu'a vécu l'auteur de tous ces tweets bien inspirés. Un film dont il serait le héros, un peu tocard, un peu Rambo. Mais attention, Rambo qui pleure sur son brumisateur. Rambo, au bout de 22 heures, va surtout pleurer de bonheur. Car voici enfin venue l'heure de la délivrance attendue. Il pleure, il rit, il ne sait plus. Et la courgette, ça va, merci. Il ne le dit pas, mais on le déduit. On le déduit, et puis on rit. Il faut dire que c'est bien écrit, c'est innocent et c'est touchant, c'est parfait. parfois drôle même, c'est marrant. D'ailleurs, ils ont bien rigolé, les Twitoski ont partagé toute cette histoire. Ils ont aimé les hommes d'abord qui ont lu, qui s'y sont assez bien reconnus, du film d'horreur jusqu'aux pleurs et même le brumisateur. Alors ils tweetent « Bravo mec, t'es courageux, toi t'as des pecs !» Ils s'applaudissent et ils plussoient, ils écrivent « J'ai été comme toi, moi aussi j'ai flippé ma race, moi aussi j'ai perdu la face, je me suis parfois senti con, mais tu sais quoi, j'ai tenu bon. » Le sentiment d'être inutile fait naître une amitié virile. Mais c'est alors que sur Twitter déboulent des femmes en colère, marre de ce discours victimaire, marre de ces plaintes, marre de ces pères qui se croient toujours prioritaires, qui osent comparer leurs souffrances à celles qu'endurent les futures mères. À coups de tweets incendiaires, elles rappellent que l'accouchement, c'est pour les femmes le moment où pour une fois tout va tourner autour d'elles et elles sont censées pouvoir enfin prendre la parole et jouer cette fois le premier rôle. Alors oui, c'est à enrager de voir tous ces pères se faire mousser, se mettre en avant sur Twitter et à grands coups de brumisateur. Tiens, le revoilà lui, où il était pendant que ces gens s'étripaient. Il n'a pas disparu, c'est sûr, alors que tout le monde se rassure. Son arme ou mieux, son bouclier, le père dit qu'il l'a gardé, vestige du rôle qu'il a joué, même tout petit, ben, c'est sacré.
Il était une fois dans le web de Julia Foyce, c'est tous les mercredis dans Grand Bien vous fasse. Demain se demande ce qu'est le racisme, qui rappelons-le n'est pas une opinion mais un délit. Qu'est-ce qui différencie la xénophobie et le racisme? Comment se manifeste le racisme dans notre société française? Pourquoi la parole raciste s'est-elle à ce point libérée? On évoquera également les cas spécifiques de l'antisémitisme et du racisme anti-asiatique. Questions, réactions par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com. À la technique ce matin, Hélène Langlois et Ronan Mahé.